toi, est-ce que tu te considères comme une entrepreneur?
Moi, ça a été long. On dirait que j'avais le sentiment un peu de l'imposteur, là,
ouais.
Parce que je l'ai quand même eu facile parce que ça arrive de nos parents, une belle entreprise bien montée, tu sais, c'est un beau cadeau. Puis j'ai été là avant que je me dise entrepreneur parce que c'est ça, le mot, on dirait que c'est comme si je me lançais des fleurs de dire ça, puis je le méritais pas, mais j'ai eu une prise de conscience il y a quelques années, puis je me suis dit, crème, si on est rendu là, c'est parce que tu sais, l'entreprise elle a grossi depuis aussi là. Fait qu'on a dû faire des bons coups. Fait que je pense qu'on mérite le titre nous aussi là, moi et mon frère. Fait que maintenant je suis un peu moins gênée de dire que je suis entrepreneur.
Bonjour, bienvenue au projet Simplement audacieux, un podcast où l'on fait ressortir les histoires d'entrepreneurs d'ici, inspirants, authentiques et persévérants. Découvrez les hauts et les bas qu'ils ont vécu.
Simplement audacieux est un projet de Lavalinov, animé par François Bilodeau
et Ève Lacourcière.
Bonjour Émilie, merci de nous recevoir aujourd'hui, très apprécié.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Enchantée. Émilie, est-ce que tu veux te présenter?
Oui, moi je suis Émilie Turcotte, je suis vice-présidente de l'entreprise MT Concept. On est situé à Laval, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Mon frère est avec moi en business, ça fait maintenant, l'entreprise existe depuis 92, 93, mais au départ c'est nos parents qui ont parti ça. Puis depuis environ 5 ans, c'est vraiment plus moi puis mon frère là qui gère l'entreprise là. Nos parents se sont retirés, donc ça a beaucoup changé là, avec les années là. Ça a évolué là. On fait plus du tout ce qu'on faisait au départ, mais
vous êtes originaire de Pont-Viaux?
Oui.
T'es née là-bas?
Oui, je suis née là. Je restais là jusqu'à 20 ans. Pont-Viaux-Laval.
Et deux ont décidé de reprendre l'entreprise. Est-ce que tu aurais pensé ça plus jeune?
J'ai tout le temps su que je finirais dans l'entreprise familiale. Donc, quand c'est venu le temps de choisir dans quoi j'étudierais, j'étais allée avec quelque chose qui me tentait vraiment, mais que je savais que je ferais pas ma vie là-dedans. J'étudiais en tourisme. Quand j'y repense maintenant, je me dis, peut-être j'aurais pu faire un choix un peu plus, tu sais, plus des affaires, tu sais, un cours de vente, mais c'est ce qui m'intéressait. J'ai fait ce cours-là, puis 6 mois après, j'atterrissais dans l'entreprise familiale.
Tu avais quel âge quand tes parents ont fondé l'entreprise?
10 ans, environ.
OK. Donc, est-ce que tu t'en souviens?
Je me rappelle pas du départ, vraiment. Je me rappelle pas quand ça a commencé, mais je me rappelle que souvent, je descendais en bas voir, dans ce temps-là, il y avait peut-être 3 employés. Donc, je descendais, je demandais si je pouvais aider à faire quelque chose. Je pense que je nuisais plus que j'aidais, mais j'aimais ça descendre en bas, aller voir les gars. Là.
3 employés dans le sous-sol?
Ouais. Ben, wow. C'était un sous-sol d'un édifice, là, tu sais, d'un bloc, si on veut.
Okay, c'est pas un bungalow de Pont-Viaux.
Non, c'était pas une maison, c'était un bloc. Okay. Donc, ça couvrait un peu plus grand. Parfait. Là, que...
Puis, qu'est-ce qu'ils faisaient initialement? C'était quoi l'idée de tes parents au départ, là?
Mon père travaillait pour mon oncle, une compagnie de thermoformage, une des grosses compagnies au Québec. Puis, il a décidé de partir à son compte pour être son producteur principal de matrices. Une matrice, ça découpe à l'emporte-pièce, si on veut, là, du plastique ou du carton. Donc, il a commencé ça tout seul. Ensuite, il y a eu 2 employés. Donc, c'était notre client principal. Puis après ça, mon père a trouvé d'autres clients dans ce domaine-là. Donc, des matrices, on en a fait jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à... Durant la pandémie, on a arrêté. Donc, okay. On a fait 25 ans sur ce produit-là. Avec d'autres produits connexes, là, à chaque année, là, on a pris des différents chemins, là, tu sais, mais les matrices ont été une grosse base pendant longtemps. Notre bébé, là.
OK. Puis ton frère, il est plus jeune ou plus vieux que toi?
Il est plus vieux.
Okay.
4 ans de plus que moi.
Fait que lui, il avait 14 ans quand la business a commencé. Est-ce qu'il s'impliquait ou...
Oui, moi, il travaillait là l'été. Okay. Mes parents ont toujours voulu qu'on mette la main à la pâte aussi, là, que ce soit sur les travaux à la maison ou dans l'usine. Là, ils voulaient qu'on apprenne à travailler de nos mains aussi. Là. Donc, mon frère a toujours su tout faire, là, ce qui avait rapport avec l'entreprise. Là.
OK. Puis ta mère, elle s'impliquait dès le début dans la business aussi ou elle a rejoint un peu plus tard?
Oui, elle a toujours fait la comptabilité. C'était elle qui s'occupait là, de tout ce qui était paperasse. Là. Donc, jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à il y a quelques années. Là.
OK. Fait que c'est avoir des parents entrepreneurs, mais là, c'était à la maison, donc tu manquais pas leur présence.
Non, c'est ça, ils ont toujours été là. Ma mère était... Le midi, on venait dîner, ma mère était là. Fait que ils ont toujours été très présents, là. C'était pas un problème. Mon père travaillait les fins de semaine dans ce temps-là, mais il était en bas, donc c'était pas bien loin, là.
Ah, ouais, OK.
Est-ce que ton frère était sûr, lui aussi, qu'il allait se retrouver dans l'entreprise familiale? Un peu comme toi?
Je sais pas s'il l'a toujours su. Par contre, il a essayé autre chose. Des fois, c'est pas toujours facile, une entreprise familiale. Tu sais, t'es avec tes parents la ben semaine, ouais. la fin de semaine. On va au chalet, on est ensemble encore. Donc, maintenant, il a voulu voler de ses propres ailes. Il est parti pour un client. Mes parents, ils ont dit, vas-y, tu sais, essaye-le, va voir si le gazon est plus vert chez le voisin. Ça n'a pas été bien long. Il est revenu.
Parce que ton père n'est pas ton meilleur patron, là.
Non, ben c'est ça. Ben, à un moment donné, ce qu'on disait, c'est que quand il y a trop de chefs, il manque d'Indiens un peu, là. Exact. Fait que ça venait dur, là. Tu sais, ils ont chacun des, c'est des gars très ingénieux, ont chacun leurs idées, des fois, quand on veut faire, on a toujours des nouveaux projets, nous, là. Tu sais, c'est pas, on fait toujours la même affaire, là. Donc, t'amènes ton idée, mais là, les deux avaient des bonnes idées, puis là, des fois, ni un ni l'autre veut lâcher prise. Fait que, des fois, ça, il y a jamais eu de grosse chicane, mais je veux dire, ça devient dur de toujours vouloir faire passer son idée, puis que c'est l'autre qui gagne. Ou, donc, un moment donné, mon frère, il a voulu aller essayer autre chose. Puis ça a été bon pour la maturité, puis pour aller voir aussi comment ça se passe ailleurs, parce que quand t'as toujours vu juste l'entreprise de tes parents, t'as pas d'œil extérieur, t'as pas les trucs des autres, parce qu'on fait pas tout bien tout le temps du premier coup, là, tu sais. C'est bon d'apprendre ce qui se fait ailleurs. Donc, ça a pas été mauvais.
Il y a un clash de génération, probablement, là, des nouvelles technologies, comment les rentrer, comment innover.
Oui, exactement. De génération, mais aussi de façon de faire. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui aime mettre la main à la pâte tout le temps. Il ne délègue pas. Donc, il va se mêler de tout le temps, puis c'est bon. Les employés aiment ça aussi. Mais à un moment donné, si tu veux grossir, il faut que tu saches lâcher prise sur certaines choses pour te permettre de t'occuper d'autres choses, mettons des ventes. Tu sais, mes parents n'ont jamais fait de publicité. Ça a été que du bouche à oreille, puis c'est bien, ça a toujours marché, mais ça nous maintenait à un certain niveau. Mais si tu veux passer le step suivant, ben, à un moment donné, il faut que tu sois capable de dire, OK, je lâche prise, je fais confiance, moi, je m'occupe de d'autres choses, tu sais.
Ouais. Puis là, ils sont encore impliqués, là. Ils ont pas encore complètement délégué la gestion.
Ils sont à la retraite, officiellement, les deux.
OK.
C'est juste qu'on aime bien les rappeler de temps en temps pour des petits trucs, tu sais. Mon père, il est pas ingénieur de formation, mais il est très, très ingénieux, donc... Si on a une nouvelle machine à faire rentrer, si c'est sûr qu'il va venir, il va nous aider, il va vouloir donner son opinion, puis on l'écoute parce que on sait qu'il y a des bonnes idées là. Tu sais.
Pendant la visite tantôt, j'ai l'image de ton père qui c'est un patenteux, puis je le dis en vraiment tout respect, je te vois dire oui.
Oui, ouais, vraiment là. Il y a des machines ici que personne a dans le domaine parce qu'ils ont été faites par notre père, puis de façon légale, en plus on sécuritaire, tu sais. Il y a vraiment une tête pour ça, puis il y a même d'autres entreprises des fois qui demandent de venir donner son opinion parce que il est vraiment bon là, tu sais.
Est-ce que ton père avait dans l'idée d'être parti d'une entreprise, entrepreneur, ou c'est arrivé un peu de son frère vers MT Concept?
Non, mon père, il a toujours été un entrepreneur là. Mes parents, ils ont eu avant un garage dans le temps, les garages Fina. Donc, tu sais, il est habitué d'avoir sa propre entreprise, mais il a fait plusieurs années là pour mon oncle, mais ensuite. C'était sûr qu'il finirait par redevenir son propre patron, là. Il a trop tête dure.
Puis, ça prend ça.
Ça a été quoi le point tournant pour que tu dises, ah ouais, OK, j'apporte quelque chose, moi aussi, je contribue par ma créativité, mes compétences à l'entreprise, je peux dire que je suis entrepreneur. Il est arrivé un
déclic.
Ouais. Des gros comptes. Ben, en fait, depuis que je suis en charge, il y a des contacts, il y a des clients que je sens qui sont, tu sais, nous, c'est facile. Là, on est des gens pas trop compliqués. Fait que je pense qu'il y a des clients qui sont avec nous puis qui restent parce que c'est simple puis parce que le contact humain qu'on a avec eux. Puis il y a des entreprises qui nous ont donné des gros contrats que je sais que c'est un peu moi qui les ai amenés ici. Fait que ça a fait un peu que ça m'a mis en confiance. Je me suis dit, tu sais, ils sont là parce que on a une bonne communication ensemble puis c'est pas compliqué. Donc, ça m'a aidé. Mais durant la pandémie aussi, le fait d'avoir été capable de passer par-dessus puis vraiment quand même bien réussir. Ben ça aussi, au début, je me disais, ah, on était chanceux. Mais après ça, quelqu'un m'a dit, ben t'as pas été chanceux, vous l'avez fait, votre chance. Puis c'est vrai, t'as raison, parce qu'on aurait pu juste avoir peur puis attendre que ça se passe, mais on a pris des risques quand même. T'sais, on a commandé des gros montants de plastique parce qu'on en voulait. T'sais, on a fait des choses qu'on aurait pu juste rester assis puis espérer que ça finisse rapidement. T'sais, puis c'est pas ça qu'on a fait.
J'entends beaucoup contact humain. Ben là, tu parlais de chance, simple, pas compliqué. On dirait que c'est comme dans votre plan d'affaires. Ancré dans l'entreprise.
Ouais, je pense que c'est dans nos personnalités parce que des plans d'affaires, de la paperasse, des choses comme ça, on n'en a pas fait. Puis on y va easy going là, souvent, mais ça nous a toujours, pas toujours réussi. C'est arrivé des fois qu'on a fait des mauvais choix là, tu sais. Mais On est comme ça, tu sais, on fait pas d'études de marché avant d'acheter une machine. On réfléchit, on parle un peu à une couple de personnes, mais on le fait à notre manière, là. Donc, c'est de même qu'on aime ça. Mais on va y aller au feeling, là.
Okay.
Donc, mon frère, il est pareil aussi, là. Lui, si je l'écoutais des fois, j'aurais une machine de 200 000 de signer en 3 jours. Je go, what a minute, là. On fera peut-être pas une étude de marché, mais on va poser des questions. Tu sais, on a deux tempéraments différents, mais c'est ce qui nous a amené ici. Tu sais, sans mon frère, j'aurais pas pris de risque, moi. Mais je le freine souvent, ce qui nous a évité peut-être de faire faillite des fois. Tu sais, je dis ça à la blague, mais tu sais, on se tempère les deux. Lui, il m'amène vers le haut. Moi, des fois, je le ramène un petit peu vers le bas pour pas qu'on se casse la gueule, comme on dirait, là.
Mm-hmm. Complémentaire dans votre façon de gérer l'entreprise. Puis ouais. Les deux, vous le savez, j'imagine. Tu es capable de le reconnaître, toi. Est-ce que ton frère serait capable de le reconnaître, tu penses, de son côté?
J'espère. Okay. J'espère qu'il le sait, qu'une chose que je
fais. On fera un podcast avec lui l'année prochaine.
Oui, demanderai.
Ouais, exact.
C'est quoi son prénom?
Benoît.
Benoît, on le salue.
Salut, Benoît.
On a fait connaissance, toi et moi, on était dans la deuxième vague, là, à l'automne 2020 de la pandémie. Tu me racontais comment... Un, tu te sentais un peu mal pour tes voisins, mais tu disais, moi, je suis vraiment chanceuse. On dirait que toute ma chaîne d'approvisionnement avait été mise en place pour que j'ai pas de difficultés à répondre à la nouvelle demande qui arrivait. Là, il y a eu des nouveaux produits qu'il a fallu créer pendant la pandémie. Fait que tu veux-tu nous expliquer un peu justement comment vous aviez créé votre chaîne d'approvisionnement? Tantôt aussi, tu me parlais, tu sais, de la compagnie qui fait de l'impression pour vous, puis c'est une entreprise québécoise, ils nous donnent de l'emploi, on leur donne de l'emploi. Fait que c'est toute cette vision-là d'approvisionnement, de collaboration avec les autres entreprises québécoises.
Oui, nous, je nous considère comme une entreprise qui est fidèle envers ses fournisseurs et ses clients. Au début de l'entreprise, je magasinais plus, tu sais, puis je me disais, ah, c'est les prix qui sont importants, puis j'ai appris avec les années que c'est pas seulement le prix au bout de la ligne du matériel qui me va qui est important, c'est comment j'ai confiance en ce fournisseur-là qui va pouvoir m'aider dans plein de situations. Puis donc, depuis plusieurs années, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, nos fournisseurs, ils savent que on n'est pas juste des magasineux. Là, t'sais, on a deux fournisseurs. Nous, c'est du plastique qu'on achète le plus. Là. Ils ont confiance en nous, puis on a confiance en eux. T'sais, même si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas, ils vont rechercher pour nous parce que, justement, on a une bonne entente aussi. Moi, j'aime travailler avec un représentant qui me plaît. Donc, je vais plus suivre l'humain que l'entreprise des fois là, tu sais, donc faut que je m'entende bien avec le rep pour que je travaille avec une compagnie. Donc dans le plastique, c'était ça, puis ça nous a aidé parce que c'est ça, quand la pandémie est arrivée, tout le monde aurait voulu acheter du plastique pour faire des gardes, tu sais, je suis pas la seule qui a des CNC, mais nous, vu qu'on a une bonne entente avec eux, puis qu'on a toujours bien payé aussi, puis ils ont confiance en nous, ben ça a fait que on était capable d'avoir du plastique quand d'autres étaient pas capables d'avoir nous, les palettes de plastique rentraient. Dès qu'eux en recevaient, ils nous en envoyaient. Donc, on était capable vraiment de continuer à travailler, là, tu sais.
Puis juste pour situer, parce que moi, la première fois qu'on s'est parlé, je savais pas ce que c'était un CNC ou ce que vous faisiez justement avec le plastique. Là, est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots?
Ouais, un CNC, ben c'est une table à contrôle numérique. C'est des grandes tables qu'on peut embarquer là-dessus, des feuilles de bois, de plastique, d'aluminium. On fait le dessin puis à l'ordinateur, puis le couteau va tracer ce qu'on veut découper. Donc, la forme qu'on décide, les trous, où est-ce qu'on les veut. Donc, pendant la pandémie, bien, ça a été utile pour découper beaucoup des gardes protecteurs pour les caisses, là, parce qu'il y en a partout maintenant de ça, là, depuis la COVID.
Fait qu'avant, vous faisiez surtout, je pense, des présentoirs.
Ouais, nos tables servaient à la découpe de présentoirs qu'on assemblait ensuite. Mais ça faisait quelques années qu'on faisait ça. On le faisait en sous-traitance au départ. Ensuite, on a commencé à le faire là, en première ligne là, directement avec des clients pour qu'ils mettent leurs présentoirs dans des grandes surfaces. Puis, on tirait un peu de la patte avec ça. Tu sais, souvent, c'est très difficile là, de faire des prix justes là, parce que il y en a jamais un de pareil. Alors, là, tu fais une production de 50 d'un modèle, mais 3 semaines après, le client il veut un autre modèle. Ils ne reprennent pas les mêmes modèles. Donc, tu es toujours en train de faire un nouveau produit. Puis, à chaque fois, faut que tu te poses la question combien de temps ça va me prendre l'assembler, combien de temps ça va me prendre le dessiner. Puis là, des fois, on se trompait. Fait que quand la pandémie est arrivée, on était tellement occupés, de toute façon, avec la découpe, que ça nous a permis de dire, OK, non, ça, c'est terminé. On pourrait continuer à en découper pour d'autres personnes, mais on veut plus gérer l'assemblage, la finition, la quincaillerie. On a dit, nous, on va rester dans ce qu'on est bon, la découpe, puis on se spécialise là-dedans. Si on veut grossir, on va grossir, mais en restant dans la découpe. Donc, c'est pour ça qu'on s'est commandé. Là, on a bientôt un laser qui va arriver. On reste dans la découpe, mais on rajoute une corde à notre arc parce que ça va être de l'acier. On touchait pas à l'acier, Maintenant, on va toucher à l'acier.
OK. Puis là, vous étiez tellement occupé à découper quoi pendant la pandémie?
Des gardes protecteurs. Puis ça a été au début, c'était des gardes protecteurs. Tout le monde voulait mettre ça aux caisses, là, les magasins qui étaient encore ouverts, là, les épiceries, tout ce qui était service essentiel. Puis après ça, ben ça a été de la visière. Quand on a tombé dans la visière, là, ça a été, on n'a jamais été autant occupé là depuis le début de MT Concept, là, de jour, de soir. Fallait trouver des employés parce que là, la PCU nous nuisait un petit peu aussi, mais on a eu beaucoup d'étudiants qui sont venus nous aider, là, prêter main forte. Fait que c'était, c'est ça, de la visière là, complète. Mon frère a développé un modèle. Puis ça a commencé comme ça. Puis ensuite, il y a des compagnies qui faisaient leur propre visière, qui voulaient qu'on leur découpe juste la partie faciale transparente. Donc, on faisait rentrer beaucoup de plastique que les autres n'étaient pas capables d'avoir, puis on découpait.
Combien vous avez fait de visière?
Vendu par nous-mêmes, direct, peut-être 500 000, mais découpé, c'est des millions. La visière, juste le plastique facial, là, on a découpé des millions.
En combien de temps pour nous donner une grandeur?
Depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, là, ça fait peut-être un an, oui.
Wow.
Oui.
Quelques millions de visières en un an.
Oui.
Alors qu'avant, c'était un produit
qu'on n'avait jamais fait parce qu'on découpait pas du plastique mou comme ça.
OK.
C'était pas dans. Ben, on était capable, mais c'est pas quelque chose qu'on recherchait. T'sais, on découpait toujours des matériaux rigides qui se tiennent bien sur la table. Là, c'était un défi parce qu'une visière, c'est. Je vais vous parler en millième, là, mais tu sais, c'est entre 10 et 20 millièmes d'épais. C'est pas épais, là. Donc, c'est mou. Fait qu'il fallait développer des façons de faire, puis. Fallait que ça sorte vite pour que ça soit rentable puis que les clients eux ils en veulent beaucoup là, beaucoup à la fois parce qu'il faut qu'ils roulent leur chaîne de montage puis les hôpitaux tu sais ils en demandaient beaucoup, il y avait des gros contrats qui se promenaient sur le marché, nous on voulait en faire partie, tu sais, on voulait donc il fallait trouver des façons de découper, fait qu'on a changé des méthodes, on a découvert des nouvelles méthodes de découpe puis ça a été bon.
En combien de temps ce pivot là? Quelques semaines, j'imagine?
C'est arrivé en mars, qu'on pensait fermer, là, mi-mars.
Ouais.
Puis finalement, je pense que j'ai envoyé les employés une demi-journée. Puis là, après ça, le téléphone a commencé à sonner pour les gardes protecteurs. Puis les employés sont rentrés la fin de semaine aussi, tout de suite après, parce que là, ça pressait. Là, il n'était pas question d'attendre. Là. Un jet privé d'une grosse entreprise de supermarché là, envoyait nos panneaux dans l'Ouest canadien là, en jet, là, juste pour que ça arrive.
Oh, wow.
Fait que, fallait pas les faire attendre, là.
Comme Mont Royal pour les panneaux en jet. Ah, oui. C'est bien.
Puis, je me souviens aussi que tu me parlais, parce qu'on parle de patenteux puis d'ingéniosité que vous avez dans l'entreprise, ce que vous avez fait pour les taxis. C'est ton frère, je pense, qui avait conçu...
Ouais, mon frère, puis un représentant ici, on pensait à ça une fin de semaine. Ils ont dit, hey, les taxis vont avoir besoin aussi, tu sais. Puis, on n'avait pas encore entendu trop parler de ça, puis... Ils ont découpé quelques modèles, ils ont trouvé une façon qui soit plus rigide en faisant un pli dedans, la façon qu'on allait l'attacher, puis on l'a proposé un petit peu, puis après ça, ça s'est mis ça aussi à... Ça aussi, on a fait peut-être, je sais pas, 2000, 3000 panneaux pour les taxis, pour protéger là, vraiment le chauffeur des utilisateurs, là, mais qu'ils puissent quand même avoir accès pour passer l'argent, le paiement. Donc, puis on voulait quelque chose de facile, puis on... qui puissent enlever pour nettoyer et tout. Donc, ça a bien répondu, le produit qu'on les a... Puis c'était à un prix raisonnable aussi.
Okay.
Donc,
fait que capter un besoin, le transformer en produit.
Oui, ça a été ça.
Une fin de semaine, en fait.
Exactement,
ça, c'est de l'ingéniosité.
Oui, ça a été la même chose pour la visière. Là. Le modèle qu'ils ont développé, là, c'était quelque chose qu'on pouvait faire complètement, je veux dire, in-house. Là. Donc, ça pouvait être fait tout ici là, avec... deux matériaux différents, un petit peu de foam pour le front.
Qu'est-ce qui était difficile à faire provisionner?
Ben vraiment le plastique en premier là, c'était la pire chose là, tout ce qui était plastique. Il y avait tout. Ben le foam c'était pas difficile de l'avoir, mais c'est quelque chose aussi qu'on n'était pas habitué de découper. Donc il fallait trouver une façon. Il y avait une découpe spéciale à faire pour que ça tienne bien là sur la partie frontale. Là. Ça aussi il a fallu que notre père nous, je vais le dire en bon français, nous patente quelque chose pour que ça tienne, pour que ça découpe, là, mais pas au complet. Ça a été particulier, là. Ça, au début de ce contrat-là, quand on a signé avec une grosse entreprise, là, j'ai regretté au début, là. J'ai dit, c'est la fin, on s'est mis pied dans les plats, on sera jamais capable d'en sortir autant, on va fermer. Moi, j'étais en panique, là. Puis,
est-ce que c'est là que Benoît aide, justement, lui, en voyant plus haut?
Ben là, oui, là, Benoît, mon père, là, se sont dit, non, on va trouver des façons.
Okay.
Faut réussir à rentrer dans les temps qu'on avait prévus. Parce qu'il faut qu'il en reste au bout de la ligne. Même si on n'aurait pas resté, juste au moins de faire travailler notre monde puis qu'on ferme pas, c'était déjà bien, mais c'est pas le but d'une entreprise non plus. Là, on veut pas se donner tout ce trouble-là, travailler les fins de semaine, les soirs, puis finalement pour rien. Là. Donc, fallait rentabiliser, il fallait rentrer d'un temps, puis on a réussi finalement. Là.
Vous avez combien d'employés? Okay, avant la COVID?
Avant, on était 20-22. T'sais, tu veux pas les envoyer sur la PCU, là, t'sais, on espérait là, pouvoir continuer à faire travailler tout le monde, puis on était chanceux d'être considérés comme service essentiel parce qu'on avait des contrats vraiment essentiels. Là.
Wow, OK. Mais c'est dans vos préoccupations, hein, de garder les gens salariés?
Ben oui, t'sais, les gens comptent sur nous aussi, puis on compte sur eux d'un autre sens, mais t'sais, je voulais pas là, que les gens... T'sais, la PCU, c'est bien, c'est un bon... ça peut aider, mais c'est pas les salaires... t'as pas ta paye complète, là, puis je sais que tout le monde tient à ça, c'est normal, là, on a toutes des...
Des responsabilités ouais, financières, des familles, mm-hmm. Ouais.
Même mon frère, des fois, le soir, il aime ça, appeler. Puis là, il veut me parler de quelque chose, parce que là, il a pensé à ça. Moi, je suis comme, Benoît, on en parle-tu demain matin? je peux-tu juste être chez nous, tranquille, là?
Ben, c'est ça, les soupers de famille, là, les réunions de famille, parlez-vous business beaucoup? Avez-vous un code?
Y a-t-il une loi non écrite? Ouais. On parle pas d'MT Concept?
Non, c'est difficile de pas en parler, là. J'imagine. C'est ça. Quand on arrive en famille, là, t'sais, tout le monde est au courant de tout, fait que c'est facile de glisser sur un... Hey, que cette semaine, à la shop, il est arrivé ça, là, mes parents, maintenant, qui sont à retraite, sont quand même curieux, ils aiment ça, savoir, ouais. Puis donc, mais là, un moment donné, quand ça devient trop, là, ma mère, des fois, dit, OK, on change de sujet, là,
tu sais. Ah, c'est ta mère, la gardienne de la famille.
La gardienne du temps.
Ouais.
Puis ça vient d'où, le nom, MT Concept?
Maurice Turcotte, mon okay. père. Ma mère, elle aime ça dire Morrison Turcotte, parce qu'elle, c'est Morrison, mais à la base, mon père, il avait nommé ça avec ses initiales.
Une décision ou quelque chose qui t'est arrivé que t'aimerais faire différemment en rétrospective?
Ben, on a fait des mauvais choix des fois sur des, justement, parce qu'on fait pas, comme je disais tantôt, de grandes enquêtes avant ou d'études de marché. Donc, il y a environ 10 ans, on avait fait rentrer une autre sorte de machine qu'on n'est pas habitué, mais on pensait pouvoir peut-être aller chercher un autre marché. Donc, ça, c'était l'idée à mon frère, là, c'est sûr.
Salut, Benoît.
Puis, finalement, ça n'a pas été bon. C'était trop spécialisé. Puis, on n'était pas prêt à ça. Donc, on avait perdu un peu d'argent avec ça parce qu'on a revendu la machine moins chère. Okay. On a payé un employé pendant des mois que finalement, ça, on facturait pas pour, que ça valait pas la peine. Mais ça a été une expérience. Moi, je m'en resserre des fois de cette expérience-là pour rappeler à mon frère quand il y a des idées de grandeur. Hey, tu te rappelles quand on a acheté la mailing, qu'est-ce qui est arrivé?
Il y a une leçon apprise.
Oui, c'est ça. Puis c'est correct, là.
Je te demande quand même, dans 5 ans, vous voyez où? Tu dois avoir une certaine idée, peu importe le chemin qui va être pris pour aller là.
Oui. On veut rester. Là, on a appris de nos erreurs dans le sens qu'on faut arrêter de s'éparpiller. Là, on s'est dit, on garde la ligne, on reste dans ce qu'on est bon, on fait de la découpe. On a grandi dans ce niveau-là parce qu'on est encore jeune puis on est quand même capable encore. On a plusieurs années à travailler encore, donc on n'aime pas stagner. On aime ça tout le temps voir le chiffre d'affaires monter, sans nécessairement grossir. On veut pas non plus être 40 employés. On aime ça gérer une petite équipe. C'est le fun, c'est familial, c'est facile. Mais de rentrer de la nouvelle machinerie. On voulait ajouter quelque chose de nouveau pour aller chercher d'autres clients. C'est comme ça qu'on voit l'avenir. T'sais, rester dans ce qu'on est bon, la découpe, mais élargir un peu les matériaux, là. Puis plus tard, ben c'est ça. Dans 5 ans, on espère que nos machines vont continuer à rouler comme ça, minimum 40 heures, s'il faut 2 chiffres des fois, mais c'est comme ça qu'on le voit plus tard. T'sais, juste grossir, mais dans la découpe CNC ou découpe laser.
OK. Ouais.
Ce podcast est une présentation de Planet Hoster. Est-ce que votre hébergeur web possède un service client 24/7 au Canada? Planet Hoster est un partenaire de confiance avec un service client 24/7 en français. Ils peuvent faire la différence lorsqu'un problème technique survient sur votre site web e-commerce et vous éviter des pertes de revenus importantes. Planet Hoster, fier commanditaire de Simplement Audacieux.
Là, tu te vois vraiment dans l'entreprise ad vitam aeternam?
Ouais, je me verrais pas ailleurs.
Non.
J'aime ça venir travailler, on se le cachera pas aussi une certaine liberté que j'aurais pas si j'étais en entreprise pour quelqu'un d'autre là, tu sais, j'aime gérer mon horaire. Ça vient avec des stress que si j'étais employée, j'aurais pas. mais je suis capable de vivre avec parce que j'aime ce que je fais.
T'as une autonomie, t'as les mains sur le volant stratégique. Exact. Ça doit être excitant quand même.
Oui, mais j'aime ce rôle-là, mais en partenariat. Je sais pas si mon frère me disait qu'il se retirait. Je suis pas sûre que je voudrais... Ben, là, oui, parce que je suis encore jeune, mais tu sais, dans quelques années, si mon frère est tanné, je pense que je le suivrai parce que j'ai pas le goût de gérer ça toute seule. Tu sais, okay. J'aime avoir quelqu'un sur qui me tu sais, pour me poser, ou je sais pas, tu sais, on peut discuter, puis les décisions ne reviennent pas juste à moi, les bons ni les mauvais coups, là, tu sais. Je préfère vivre ça à deux que...
Un sounding board, en fait.
Ouais, exact. On s'est toujours bien entendu.
Ouais.
Malgré la différence d'âge, moi, je me tenais avec mon frère quand j'étais jeune, je voulais le suivre, tu sais, on n'a jamais eu des grosses chicanes, on est différents, mais on s'entend bien, donc... Puis on n'est pas du monde dur, on n'est pas des rancuniers, vraiment pas, tu sais, même si ça brasse ici, puis on se retrouve au chalet le vendredi soir, c'est fini. Okay. C'est fini, on va... Jamais qu'on va se bouder, on passe vite par-dessus.
T'es privilégié, hein, tu le sais.
Oui, je sais. Je pense que je suis née sous une bonne étoile.
Oui, ouais, définitivement, c'est rare. Deuxième génération, en plus, avec ton frère, il doit pas avoir énormément de ces histoires-là au Québec.
Non, c'est vrai. Puis je pense que nos parents, des fois, quand ils parlent à d'autres entrepreneurs, ils vont dire, hey, vous êtes chanceux, nous, on aurait aimé ça que nos enfants leur prennent, mais ça les intéressait pas, tu sais.
Ouais.
Donc, oui, je pense que c'est vrai que...
Puis, je veux pas être indiscrète, mais avez-vous de la relève, toi ou ton frère, là? Avez-vous des enfants qui vont peut-être garder la business après?
Ouais, on a chacun deux enfants.
OK.
Les miens sont un petit peu plus vieux, malgré que je suis plus jeune, mais j'ai eu mes enfants avant mon frère, donc okay. Peut-être qu'un jour, je les forcerai pas à ça, je vais pas... mais si ça les intéresse, oui. Ma fille, peut-être je la verrai avec nous.
Okay. Est-ce qu'ils viennent ici de temps en temps, ça doit?
Oui, ben durant la pandémie, des fois, je les ai amenés, j'avais pas le choix, l'école était fermée.
Ouais.
Je suis comme compter des élastiques, c'est pareil. Mais ma fille, elle aime ça venir travailler.
Elle a quel âge?
Elle a 13 ans.
OK.
Donc, mon garçon a 12 ans. Ouais, c'est ça. Puis mon fils, des fois, il se ramasse des retailles. Tu sais, nous, on coupe beaucoup de choses, donc il reste souvent des retailles de bois ou « Ah, je me ramène ça à la maison, je vais jouer là-dessus. » Ah, pas de problème.
Ça va être le patenteux, là.
Il utilise des outils, puis je me dis « Gars, souvent, ça finit dans le container, mais c'est pas grave. »
Il y a un intérêt.
Ouais, c'est ça. Moi et mon frère, on est 50-50, mais tu sais, j'ai laissé le titre de président, aucun problème avec ça. Ça me dérange pas. Tu sais, le titre, c'est juste un titre, là. Nous, c'est pas ça qui fait qui on est, là. Donc, notre place, on l'a pris, là, avec les années.
Mais vos parents vous ont laissé de la place aussi.
Ouais, ben, je pense que aussi, ça les libérait un petit peu. J'imagine, ça faisait des années qu'ils avaient tout ça sur leur épaule. Donc, ils nous ont laissé de la place, ils ont laissé notre façon de faire. C'est pour ça que maintenant, c'est venu plus difficile. T'sais, nous, on était beaucoup, comme je disais, on déléguait pour prendre un regard d'un peu plus loin, ce que mes parents n'avaient pas parce qu'ils avaient les deux mains dedans tout le temps. Donc, ils ont peut-être vu que finalement, c'est pas si mauvais de le faire comme ça, là.
Ben, idéalement, quand on a des enfants, c'est parce qu'on veut qu'ils nous apprennent des choses, là. Ultimement, on espère que nos enfants vont nous dépasser puis vont être capables de nous apprendre des choses. Donc, ils doivent être très, très fiers.
Ouais, non, je pense qu'ils sont contents. Surtout aussi avec la pandémie, comment c'est arrivé, de voir que, tu sais, eux aussi étaient stressés quand ils regardaient les nouvelles, puis ils disaient, ah, mon Dieu, ils vont être obligés de fermer, ils vont être obligés, tu sais. Donc, ils ont été fiers de voir, là, que finalement, c'est pas ce qui est arrivé, là.
Puis tantôt, tu parlais un peu des retailles. Comment vous gérez justement toutes ces retailles de plastique-là? Est-ce qu'il y a des repreneurs? Est-ce que c'est complètement enfoui? J'ai un beau sourire, là.
C'est très difficile. Ça fait des années que je cherche une façon de gérer nos retailles sans mettre ça dans le conteneur. Tu sais, je trouve ça aberrant qu'on jette du beau matériel qui pourrait être recyclé, mais il y a j'ai contacté beaucoup de compagnies, puis c'est très difficile, puis je rencontre pas des compagnies fiables dans ce domaine-là à date, là. Je dis, ah oui, on va vous amener des boîtes, vous allez les mettre dedans, on vient les chercher, ils viennent jamais. C'est dur. J'ai de la misère à trouver. J'attends que tu me trouves une solution, Eve.
Ouais, on cherche en collaboration avec Symbiose.
Ouais, là. Effectivement, il y a des programmes, on pourra définitivement vous en reparler. Ma question, j'aimerais savoir, quand vous prenez une décision d'affaires, je sais, il n'y a pas de plan, ou tu sais, c'est dans votre tête, c'est plutôt organique et c'est parfait comme ça. Quand vous prenez une décision d'affaires, quels sont les facteurs que vous prenez en compte le plus Humain, financier, matériel, fournisseur.
Humain, moi, j'y tiens. T'sais, bon, des fois, on a des opportunités qui feraient que on perdrait un peu de notre liberté. Puis ça, c'est non. C'est avec les années. Là, avant, on sautait sur tout parce que on fait rentrer de l'ouvrage, on prenait n'importe quoi. Puis maintenant, non. J'ai plus envie de me stresser avec des jobs que je sais qu'on va être obligé de mettre une gestion là vraiment tu sais plus grande que ce que les jobs habituels donc vraiment on choisit un peu plus nos projets d'année en année puis j'aime ça parce que c'est ça je le rappelle des fois à mon frère j'ai attention tu sais t'aimes ça toi aussi ta liberté si on prend des nouveaux contrats comme ça ça fait que tu sais tu vas être mêlé à la production vraiment les deux mains dedans comme notre père faisait puis c'est pas comme ça qu'on veut les
prochaines années. Pas la croissance à tout prix.
Non, vraiment pas.
OK.
Mais la croissance, oui, par contre. Oh, oui.
Mais pas à tout prix. Non, fond, exactement. Il y a juste un milieu, c'est parfait.
T'sais, des fois, j'ai des clients qui me demandent, c'est de la découpe comme on fait habituel, mais il y a de la fibre de verre dans le matériel. C'est non. Ça serait des beaux contrats, mais non. C'est
pourquoi?
Pour la
pourquoi
santé. La fibre de verre? Okay. Moi, santé? Ça m'intéresse pas. Il y a sûrement des entreprises spécialisées là-dedans qui sont mieux équipées et qui peuvent le faire, mais nous... J'ai pas envie que mes employés respirent ça. J'ai pas envie, même si ça serait peut-être des beaux contrats des fois parce qu'ils ont de la misère à trouver où le faire. Je pourrais charger plus cher, mais non.
En tout cas, dans tout ce que j'entends à date, c'est vraiment travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler.
Ah, vraiment. Je sais pas si ça fait de nous des paresseux des fois, mais je dis, j'aime mieux profiter de la vie que de travailler sans arrêt. Non, c'est exactement.
Ouais, avoir une qualité de vie. Ça a été quoi dans toute l'histoire, là, pas nécessairement à partir du moment que toi et ton frère ont pris la relève, quoique peut-être, là, le plus difficile ou le pire, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur de fermer ou est-ce qu'il y a un moment où...
Mais moi, ça a vraiment été le pire moment, ça a été au début de la pandémie.
Ah oui?
Les premières semaines, là, surtout en ayant pris... Même si on avait eu un gros contrat, j'ai tellement eu peur que ça nous rattrape puis que finalement, on se soit mis les pieds dans un plat de prendre ce contrat-là. On avait même... regarder avec des avocats, voir si on laisse tomber le contrat, qu'est-ce qui arriverait, est-ce que ça serait dangereux pour nous. T'sais, c'était comme David contre Goliath un peu, malgré que le client qui nous a donné ce contrat-là, il n'y en a pas eu connaissance. C'était toutes des réflexions qu'on avait à l'interne, mais je me suis posé des questions. Je me disais, oh non, on n'a pas bien fait, on n'arrivera jamais. T'sais.
Okay.
Puis finalement, ça a été ma plus grande crainte là, depuis plusieurs années là, de mémoire, c'était ça. Là.
Puis le plus beau moment de toute l'histoire d'MT Concept, pour toi, là, le moment le plus euphorique ou le plus heureux? Ou le...
Ben, je vous dirais que c'est dans la dernière année qu'on les vit, là, du moment que ça nous a vraiment donné un coup de pouce. C'est plate à dire, là, mais la COVID, là, je veux dire, c'est triste tout ce qui arrive. Puis j'ai beaucoup de peine pour d'autres entreprises que ça va moins bien. Mais pour la nôtre, maintenant, on choisit plus nos jobs. Depuis la dernière année, depuis que les gros contrats sont finis aussi, parce que quand que chaque gros contrat qui arrive, c'est un stress là. Jusqu'à temps que la job soit finie, on le sait pas comment elle va avoir été là. Tu sais, on regarde les temps après, les matériaux utilisés. Ah, ok, celle-là a été bonne. Tu sais, mais depuis que les gros contrats sont finis, ça va bien, tu sais, on est plus relax. Là.
Fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres pour vous. Ouais, elle a fait
ça.
Ouais. Une grimace, là.
Ouais, exactement.
Mais, c'est la vie, là.
Mais en fait, tu sais, on travaillait aussi pour que ça aille mieux, tu sais, les protections, les visières qu'on faisait, ça s'en allait toutes dans les hôpitaux au Québec, tu sais. Ouais. Fait que, oui, ça nous faisait travailler, mais on sentait aussi qu'on contribuait à protéger les médecins, les infirmières,
ça faisait du sens un peu quand même.
Ouais, c'est pas comme si on travaillait à contresens là, tu sais, on travaillait pour aider là à protéger les gens là.
Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as le goût de transmettre aux générations futures ou aux gens qui se lanceraient ou peut-être aux enfants d'entrepreneurs
de se faire confiance, d'arrêter d'avoir comme je disais tout à l'heure le sentiment d'imposteur. Tu sais, si vous êtes là, c'est parce que j'imagine que vos parents ont eu confiance en vous. Puis vous devez faire des bons coups, puis faut prendre le mérite qui vient avec aussi là. Tu sais, arrêter, c'est ça, de penser que c'est juste parce qu'on est chanceux d'avoir eu l'entreprise, tu sais, en moins qu'on l'ait fait couler là. Mais je veux dire, si elle continue à bien aller ou à grossir, c'est signe que vous faites sûrement quelque chose de bien. Donc faut le prendre le mérite là. Faut pas être gêné.
J'ai une autre question. Pourquoi tourisme?
Ah là là, me le demande encore des fois. Non, mais ça m'attirait. Là, tu sais, les voyages m'ont toujours attiré.
Ah,
ça m'attirait. Puis je suis contente au final de l'avoir faite parce que j'ai appris l'espagnol comme ça. Donc, j'ai une troisième langue que j'aurais jamais eue là, si c'était pas d'avoir fait ce cours-là. Ça m'a donné la piqûre.
Mais jamais ingénieur, science.
J'avais pas des maths bien fortes, moi. Mon frère, il avait ses 5,36, tu sais. Puis moi, j'ai toujours passé, mais j'ai jamais eu des 90 à l'école. Moi, je passais un 70, j'étais contente, puis c'était bien correct.
Côté t'sais. Humain, là.
C'est ça. Fallait que ce soit le fun, puis que ce soit pas trop dur.
Puis là, j'étais un peu de même. Elle se dandine.
Moi, je crois que c'était chill. Là, sourire,
c'est
ouais.
Comme, c'était le côté social à l'école que tu devais apprécier, toi.
J'aimais bien ça, ouais. C'est ça. Pas trop d'efforts, du plaisir. Fallait pas que j'étudie trop longtemps le soir. Fait que... Je cherchais pas trop à me casser la tête, là. Fait que je suis encore un peu de même aujourd'hui.
Le 80-20, là.
Ouais, exactement.
20% d'efforts, 80% de résultats. Tu as compris ça, Jean.
Oui.
Quand tu vas en voyage, tu vas-tu voir des entreprises similaires à la vôtre?
Non, j'ai jamais fait ça. J'ai un concurrent qu'on s'entend bien avec, mais concurrent pas 100%. Puis lui, il fait ça dans tous les pays, là, vraiment, là. Puis il réussit à rentrer partout. Puis ça m'impressionne. Je dis, mon Dieu, c'est une bonne idée, tu sais. Mais non, je l'ai jamais fait. J'ai jamais vraiment été visiter d'autres entreprises à l'extérieur du Québec.
Est-ce que tu aimerais ça, maintenant que tu as l'idée?
Oui, vraiment. Ça pourrait être le fun, oui. Mais
on t'accompagne.
Ben ouais.
Let's go, on book ça après la COVID.
Clairement. Puis tu aimerais voir quoi dans les autres entreprises?
Bien, voir l'installation, c'est une chose, mais passer plus qu'une heure, là, tu sais, voir un peu comment eux, ils gèrent, parce que nous, on fait de notre façon parce qu'on a décidé comme ça, puis on a changé des fois un temps, on va changer à tous les 6 mois notre façon de faire. OK, c'est lui qui va recevoir les commandes, c'est lui qui va l'envoyer à lui, puis là, après ça va se mettre en production. Tu sais, puis, ah non, OK, c'est pas comme ça. On change de méthode, tu sais. Mais c'est sûr que de voir ailleurs comment ils fonctionnent, ça donnerait un autre œil, puis ça donnerait sûrement des trucs, là, tu sais, on n'a pas la science infuse du tout, là.
Comme la logistique interne, là.
Ouais, c'est ouais. Ça serait intéressant à voir. Tout peut être intéressant, mais c'est ça, pas juste voir l'installation physique, mais voir la procédure, là, le chemin que la job fait, ou le premier courriel qui rentre, là, jusqu'à où ça mène, ça, okay. Ça m'intéresse.
Super belle rencontre, bravo à toi, à ton frère et à toute l'équipe d'AMT Concept.
On salue... Morrison et Turcotte.
Ah ouais, beau catch, bravo.
Bonne idée.
Bon, salut les parents.
Oui.
Non, c'est une belle entreprise, puis c'est très agréable, j'en sais que toi, t'es clair, t'es direct, on aime ça, pas d'ambiguïté, vraiment attachante. Merci beaucoup.
Un gros merci.
Alors, c'est ainsi que se termine la saison 1 des podcasts Simplement audacieux en grand. Revenez-nous la semaine prochaine, le 14 juillet 2021, alors que 3 entrevues seront disponibles en même temps. Il s'agit de 3 lauréats du gala Ose entreprendre de Laval, 2 de la catégorie Innovation technologique et technique et le lauréat de la catégorie Réussite Inc.
Nous remercions toute l'équipe d'Ose entreprendre et spécialement l'équipe de la Ville de Laval qui a travaillé extrêmement fort encore cette année pour préparer et rendre possible ce concours de promotion à l'entrepreneuriat. Et qui nous a aussi offert la possibilité de rencontrer intimement 3 entrepreneurs débordants d'énergie. C'est donc un rendez-vous la semaine prochaine.
Yep! Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast, partagez-le à votre entourage et écrivez-nous des commentaires. Nous aimerions également entendre vos suggestions d'entrepreneurs inspirants et audacieux pour nos prochains épisodes. Visitez notre site web à lavalinov.com dans la section « Équipe » pour nous rejoindre personnellement.
Vous pouvez écouter le podcast « Simplement audacieux » gratuitement sur le site web de Lavalinov ou encore là où vous avez écouté cet épisode. « Simplement audacieux » est une production de Lavalinov.
À la réalisation.
Vidéo Marketing Québec.
Au soutien logistique.
L'agence EMI.
À la musique.
Marc Gravel.
À l'infographie et au marketing.
HKD Design.
Merci à tous.